mes amis, tout à l'heure, quand je me tenais devant Dieu dans ma chambre, en pensant à cette heure et au thème que je dois continuer de traiter, la pratique des vertus chrétiennes, le Seigneur m'a parlé par un texte qui se trouve dans les Colossiens, au chapitre 4, où on entend l'apôtre Paul dire qu'il désirait annoncer le mystère du Christ et de le faire connaître comme il devait en parler. C'est au chapitre 4. Et j'ai compris que c'était essentiel pour nous pendant ces journées, c'est que Dieu me donne de vous faire connaître le mystère du Christ et qu'il m'accorde la grâce d'en parler, de le faire connaître, ce mystère, comme je dois en parler. Plusieurs personnes m'ont posé des questions dans cette journée. On m'a demandé des questions sur mon salut personnel. On m'a posé des questions sur ma vocation, mon ministère. On m'a demandé aussi certaines choses concernant ma vie familiale, ma vie conjugale. Et j'ai compris qu'avant de vous enseigner davantage la pratique des vertus chrétiennes, je devais peut-être répondre à ces questions. Car plusieurs, évidemment, ne me connaissent pas et je n'ai aucune envie de me faire connaître. J'ai le seul désir de le faire connaître, de vous faire connaître le mystère du Christ et de vous en parler comme je dois en parler, même si j'ai presque perdu la voix à Denham, le Seigneur peut me la redonner. Mais je comprends que plusieurs parmi vous se demandent, mais au fond, pourquoi c'est ce monsieur Racine qui nous enseigne dans ces soirées au camp Maranatha, quelle est son autorité et qui est-il au fond pour qu'on l'ait demandé de nous parler dans toutes ces soirées? Je vous comprends pleinement, vous êtes en droit de vous demander qui est celui et qui vous enseigne. Pas plus tard que il y a vendredi 8 jours, me trouvant à Paris, je lisais un matin le Figaro. Et il y avait un article de l'abbé René Laurentin, qui est journaliste, et qui était intitulé « Permis de conduire pour les théologiens ». Et ça m'a intrigué. Et René Laurentin donnait un rapport d'une conférence qui a été organisée à Cambridge, en Angleterre, et qui avait pour thème non pas la pratique des vertus chrétiennes, mais permis de conduire pour les théologiens. Et on avait invité des théologiens catholiques, des théologiens anglicans, des théologiens protestants, des théologiens évangéliques, pour leur demander, mais au fond, de quel droit parlez-vous de Dieu? Car c'est vraiment cela, la théologie. Parler de Dieu, comme René Laurentin le souligne. C'est le sens même, dit-il, du mot théologie. Alors, on a demandé à ces théologiens, au fond, pourquoi parlez-vous de Dieu ? À quel titre ? Et quelle est votre autorité ? Elles étaient effarées par les réponses qui ont été données. Le premier qui a répondu à cette question, c'est le père Congar, qui est universellement connu comme un grand œcuméniste, comme le conseiller du pape Paul VI, décédé, et quand on a posé cette question au père Congar, au fond, qui vous a permis d'être théologien, pourquoi parlez-vous de Dieu ? Vous savez ce qu'il a répondu ? Je ne m'étais jamais posé cette question. On est dans une famille, on reçoit une certaine éducation, on y grandit, et puis on nous apprend qu'il nous faudra travailler d'une manière ou d'une autre pour gagner notre pain, qu'il nous faut choisir un métier, et suivant l'influence que nous avons subie, le tempérament que nous avons, les possibilités peut-être matérielles qui nous sont données, eh bien on choisit un chemin. Autrefois, en France, il était de bon ton dans les bonnes familles qu'il y ait un fils qui fasse la carrière militaire, qu'il y en ait un qui fasse le barreau pour devenir avocat, un autre, si c'était encore une grande famille, qui soit médecin, et dans les familles catholiques ou protestantes, ça devait très bien quand même qu'il y en ait un qui soit au pasteur ou curé, prêtre ou moine, c'était admis. Et chez les protestants, où l'on se marie, même dans le ministère, on estimait que le pasteur, c'était essentiel pour lui d'épouser une fille riche. Alors on espérait toujours qu'il serait assez spirituel pour ne pas s'arrêter à la beauté. Et c'est pourquoi les femmes de pasteurs en France pendant longtemps avaient la réputation de n'être pas très jolies. Mais elles avaient une dent. Et ça aidait à mettre un peu de beurre sur les épinards dans le foyer pastoral. Je vous raconte pas des histoires, j'ai vécu en France assez longtemps. Mes origines, mes racines sont françaises, bien sûr, même si je suis né en Suisse, pour ceux qui se sont posés plusieurs questions. Oui, je suis né en Suisse, un peu par accident, puisque mes ancêtres étaient des Huguenots, c'est-à-dire des catholiques d'origine, mais qui avaient entendu la parole de Dieu et qui avaient voulu revenir à l'écriture sainte, qui avait donc suivi ceux qui protestaient au nom des écritures pour demander au pape de réformer l'église. On les a rejetés, pendant un certain temps on les a tolérés, puis après, à la révocation de l'édit de Nantes qu'avait fait Henri IV, quand Louis XIV a révoqué cet édit, et que l'on s'est mis à nouveau à persécuter les protestants, eh bien, mes ancêtres pouvaient échapper à l'échafaud ou au bûcher ou aux dragonnades, ont trouvé un refuge en Suisse. Et c'est ainsi qu'après quelques générations, je suis né en Suisse, mais vraiment avec ce sang huguenot, avec cet amour que je reconnais avoir eu dès ma jeunesse pour la Bible, pour la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, j'ai évidemment désiré la faire connaître. Quant à mon salut, puisque certains m'ont demandé si j'étais sauvé ou depuis tant je l'étais, moi ça ne fait rien, Mais je trouve toujours que c'est assez désagréable quand au début d'un temps, on demande là aux gens qui viennent pour la première fois, qu'on leur pose une espèce de questions et qui peuvent les gêner. Pourquoi ne priez-vous pas d'abord pour ces âmes que vous ne connaissez pas, pour demander au Seigneur qu'il se révèle à elles, parce que sans ça, vous risquez d'être un obstacle. Je me souviens l'année dernière, on avait demandé à ce fameux festival Jésus de Sutton au colonel Brown de venir parler, et à peine qu'il était arrivé sur le terrain, des gens venaient lui dire « Comment vous, si vous êtes vraiment chrétien, pouvez-vous être dans l'armée canadienne ?» Ça ne correspond pas. Et puis un autre était venu lui dire « Comment vous, qui allez nous parler, pouvez-vous être encore dans l'église catholique si vous êtes vraiment converti ? Est-ce que vraiment vous avez le salut ? Est-ce que vraiment vous êtes sauvé ?» Vous savez, c'est assez désagréable de rencontrer ces personnages-là qui se croient autorisés à questionner à tort et à travers des gens qu'ils ne connaissent pas, alors que l'on pourrait plutôt vivre dans l'attente, dans le respect de l'autre et attendre de le connaître parce que lui-même pourra dire, pourra manifester dans sa vie. Mais je vous dirai que pour moi, cette année 1981 est une année qui marque dans mon existence. Car c'est en 1981 que je célèbre, si c'est à célébrer, les 50 ans de vie avec le Seigneur Jésus. Il y a 50 ans, cette année, que j'ai rencontré le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Malgré les enseignements que j'avais reçus dans une famille très pieuse, eh bien, il a fallu que le Père Céleste, à un moment donné de ma vie, me révèle lui-même son Fils. Et ce Père, c'est plus, il y a 50 ans, à me révéler son Fils bien-aimé, qui est devenu, dès ce moment-là, mon sauveur personnel, et qui allait ensuite, c'est ce chapitre-là qui m'a amené à connaître Jésus comme mon propre sauveur. Non pas comme le sauveur de tous les hommes, mais comme mon sauveur. Dans les meurtrissures duquel j'avais obtenu la guérison de mon âme. Et je me souviens de cette joie. La journée après ma conversion au Seigneur Jésus, on me demandait déjà de rendre témoignage dans la ville de Lausanne à une centaine de personnes qui étaient réunies. J'avais encore, comme aujourd'hui, vous m'avez vu en culotte courte, eh bien oui, j'avais encore des culottes courtes, mais ce n'était pas des shorts. C'était simplement les pantalons qu'on usait dans ce temps-là. Et je me vois ce certain dimanche soir tirant sur mes shorts pour me donner une contenance. Il fallait dire ce que le Seigneur avait fait pour moi, comme Hélène vient de nous le dire si bien tout à l'heure. Oui, il y a un jour où l'on peut dire qu'il est notre sauveur. Et on ne le connaît pas encore beaucoup, on ne sait pas encore beaucoup de lui. Oh, je savais théoriquement bien les choses sur lui. Je connaissais les évangiles, je connaissais sa vie, mais tout cela était quand même extérieur à mon cœur. Tandis que ce jour-là, ce 31 juillet 1931, c'est vrai ? Eh bien oui, il était entré dans mon cœur. Et il était mon sauveur. Ça, je m'en souviendrai toujours. 50 ans. Et je ne regrette pas d'avoir donné mon cœur jeune au Seigneur. Mais alors, j'avais fait des plans. Et je me souviens très bien que dans mon premier témoignage public, j'ai dit, maintenant qu'il est mon sauveur, je lui consacrerai ma vie et je serai médecin missionnaire. Et je pas parce que mes parents voulaient qu'il y ait un fils médecin dans la famille, pas du tout. Mon père n'en voulait rien, non. Mais c'était là ma pensée. Mais pourquoi missionnaire? Parce que depuis mon enfance, avant ma conversion, j'étais un garçon qui souffrait dans un pays à majorité protestante de toutes les divisions que je voyais, toutes ces églises qui prétendaient être elles-mêmes dans la vérité, toutes ces assemblées, toutes ces communautés. Et même, il y avait des catholiques, mais une minorité. Et mon père m'a élevé dans ce respect des catholiques, de cette petite minorité, et qui pouvait être plus ou moins maîtrisée, parce que partout où une majorité domine, elle risque d'opprimer l'autre. Cela a été vrai du catholicisme. Lorsqu'il était dominateur, il persécutait les minorités, mais quand il y a eu à certains endroits une majorité protestante, on a vu aussi cette majorité opprimer la minorité catholique. Et ça, ce n'est pas dans le Seigneur. Ça, c'est quelque chose de faux. Et le Seigneur n'a jamais fait cela. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et apportant ses paroles de grâce à tous. Alors moi, j'avais une telle souffrance que je me disais, si je me consacre au service du Seigneur dans mon pays, je sèmerai au milieu des épines. Parce qu'il me semblait que ça n'arriverait à rien. Toutes ces doctrines qu'on mettait en avant risquaient d'étouffer la semence de vie. Alors je voyais la mission, je voyais les païens, et je me disais, en étant médecin, tu vas te pencher sur les corps, et en te penchant sur les corps, tu pourras apporter un message aux âmes. Vous voyez, quel était mon choix. Mais au lieu de devenir médecin, le Seigneur a fait de moi un malade. Un malade très gravement, et à l'âge de 18 ans, j'aurais dû mourir. J'étais condamné par les médecins. Et contrairement à ce que les médecins avaient pensé, eh bien voilà que je suis encore là. Mais cette année 1981 est pour moi aussi la 45e année de mon ministère. Depuis 45 ans, le Seigneur m'a appelé. Alors permis de conduire, pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi, depuis 45 ans, est-ce que je prêche l'Évangile dans le monde, allant de lieu en lieu, un peu dans tous les continents où le Seigneur m'a conduit jusqu'ici, pour y donner un témoignage? Quelle est ma motivation? Eh bien, un jour, en Italie, dans une petite ville où j'étais en convalescence, quand j'ai réalisé que le Seigneur me sortait de la mort, un samedi, à 5 heures, alors que j'étais à genoux devant ma chaise en prière, j'avais pas de prie-dieu, alors je prenais une chaise. Maintenant j'ai un prie-dieu grâce à nos amis de Mahanaïm. Et ça me tient un peu plus droit, vous comprenez, que des bras, hein, comme ça. Eh bien, dans ce moment de prière, j'ai entendu le Seigneur me dire que je devais prendre conseil de la chair ou du sang, mais que je devais commencer à le servir. Et le chapitre de ma vocation, vous le trouvez non plus dans Ésaïe, mais dans Jérémie, au chapitre 1er. Et dans ce chapitre 1er, il y a tout le programme de mon existence. Et il y avait prophétiquement tout ce qui pourrait m'arriver et ce que le Seigneur me demanderait. J'étais encore très jeune, je me sentais un enfant, et le Seigneur me disait, ne dis pas je suis un enfant, car pour tout ce pourquoi je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Ne les crains point de peur que moi je ne t'épouvante. Voilà, si vous vouliez savoir pourquoi je suis dans le ministère, bien je vous l'ai dit très simplement, parce qu'il m'a appelé d'une façon personnelle, précise, que je ne devais dépendre ni de la chair ni du sang, mais le servir comme les premiers disciples. Mais évidemment, j'avais fait aussi mes petits plans pour le servir. J'avais la pensée qu'ayant été si malade et que j'en avais peut-être pas pour très longtemps, je devais le servir dans le célibat. Paul n'avait-il pas dit que celui qui se mariait faisait bien, tandis que celui qui ne se mariait pas faisait mieux, parce qu'on pouvait se donner entièrement au Seigneur, de sorte que dans l'Écriture, rester célibataire, qu'on soit femme ou qu'on soit homme, c'est pas une catastrophe, et ce n'est pas nécessaire de se dessécher parce qu'on n'est pas marié. Croyez-le bien, ce n'est pas du tout une nécessité, parce qu'il y en a qui sont mariés et qui pourrissent. Alors, ne vous desséchez pas si vous êtes célibataire. Je ne sais pas ce qui est préférable, se dessécher ou pourrir, mais quand je vois toute la pourriture qu'il y a dans tant de foyers, eh bien, je me dis, heureux encore sont les célibataires, car ils ont leur avenir devant eux, tandis que beaucoup l'ont déjà derrière eux. Mais tant que ce n'est pas fait, vous avez encore votre avenir devant vous. J'avais donc pensé que je servirais le Seigneur célibataire, et ça a duré 2 ans, où je suis allé de lieu en lieu, et spécialement dans nos cantons catholiques en Suisse, qui ne connaissaient pas encore l'Écriture, parce que je me sentais poussé vers ces gens qui avaient une religion, mais qui n'avaient pas eu la possibilité de connaître ce que je connaissais, l'Évangile et l'assurance de leur salut. De sorte que quand on me dit, mais vous êtes un site très œcuménique, vous avez aujourd'hui des contacts avec les catholiques, je les ai toujours eu, ces contacts. Je me souviens qu'en 1938, alors que j'étais célibataire et que j'allais évangéliser le Valais, qui est un de nos grands cantons catholiques suisses, eh bien, la première chose que j'avais compris, c'est que je n'irais pas distribuer des Bibles, des Évangiles dans tous ces villages et dans toutes ces villes en cachette. Mais que la première chose que je ferais, j'irais à l'abbaye de Saint-Maurice, et qui est juste à l'entrée du Valais, et que là, je parlerais aux responsables, aux chanoines de l'abbaye, de ce que j'allais faire. Et mes amis croyants de nos assemblées disaient, mais ils vous fous, ils vont vous garder, ils vont vous arrêter, ils vont vous empêcher de faire ça. Et c'est bien le contraire qui s'est produit. Je me souviens toujours de mon premier entretien avec un théologien, le chanoine d'ailleurs, et qui m'avait reçu dans sa cellule, et nous avons eu 1 heure d'entretien absolument valable, où lui-même était bouleversé en me disant, mais comment vous avez cette droiture? Et moi, j'avais pris aussi des encycliques de 3 papes qui recommandaient la lecture de la Bible. Alors, je pouvais lui montrer que j'avais aussi l'appui des papes dans le travail que je faisais, et qui se mettaient en contradiction avec certaines autorités supérieures s'ils m'empêchaient de faire le travail que j'avais à cœur de faire. Répondre à la Bible, répondre à l'Évangile, mais un Évangile qui était reconnu par l'Église, puisqu'il y avait des petits Évangiles, une édition qui était très bien faite, mais qui avait l'imprimatur, puisqu'à ce moment-là, il fallait l'imprimatur, je prenais des Bibles qui avaient l'imprimatur pour que le catholique ne se sente pas coupable en se mettant à lire la Bible, puisque beaucoup pensaient que c'était un péché de lire la parole. Et bien voilà ce que je faisais en 1938. J'avais déjà ces contacts, je ne vous dis pas que ça a toujours été facile. On m'a dénoncé, j'ai été arrêté par la police, on a voulu confisquer tout ce que j'avais, mais le Seigneur m'a donné délivrance sur délivrance. Je sais qu'il y a des anges, et je les ai vus sur mon chemin, et ils m'ont libéré. Mais un certain jour où j'étais monté sur une montagne dans le canton de Vaud, en Suisse, au milieu de 3000 malades, c'était une station qui avait été établie pour les tuberculeux, un certain jour à midi, en un jour de janvier 1939, le célibataire qui était depuis 1 mois à Lézun et qui voyait tout le travail qu'il y aurait à faire parmi les malades, qui avait été lui-même malade et qui avait un contact tout à fait particulier avec ceux qui étaient dans la souffrance, parce que je savais ce que c'était, j'avais été 7 ans dans la souffrance, de sorte que tout à coup, en sortant d'un des grands fanats de cette ville de Lézun, j'ai entendu le Seigneur qui disait, créer un foyer pour les tuberculeux à Lézun. Et j'étais aussi net que ça, créer un foyer pour les tuberculeux à Lézun. Et il y avait 2 mètres de neige, parce que là-haut on a aussi beaucoup de neige, autant qu'au Canada. Et je me souviens toujours, si le Seigneur avait été visible là dans cette neige, je n'aurais pas vu davantage. Et ce jour-là, je devais aller manger le lunch à midi chez un des grands commerçants de cette ville de Lévin, qui était un chrétien, qui n'avait pas d'enfant, je connaissais seulement depuis un mois. Et il m'avait invité à dîner. Et quand j'arrive chez lui, il me dit, « Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes rayonnant. » Mais je ne savais pas. Et je lui ai dit, « Je l'ai rencontré. » Je n'ai pas dit qui. Je l'ai rencontré. Puis il me dit, « Qu'est-ce qu'il vous a dit ? » Créer un foyer pour tuberculeux à Lévin. Je vois mon homme qui éclate en larmes, il avait 65 ans, qui me prend dans ses bras, qui me dit, « Gaston, tes 20 années de prière exaucée. » C'est comment ? Il dit, « Moi, j'ai fait de l'argent avec la maladie. » Il avait de grands magasins, une pharmacie, une droguerie, une épicerie en gros. J'ai fait de l'argent avec les malades. Et je me suis toujours dit, comme chrétien, tu devrais soutenir quelqu'un. Je voudrais que Dieu suscite quelqu'un à Lévin pour travailler parmi les malades, leur donner l'occasion de pouvoir se rassembler, se réunir et leur parler du Seigneur. Et il me dit, Seigneur, me tutoyer. Quand je t'ai vu pour la première fois du mois, j'ai eu comme le pressentiment que tu étais cet homme. Et voilà que le Seigneur répondait. Alors moi, vous comprenez bien, j'étais bouleversé parce qu'il me dit, ton foyer, c'est moi qui en prends la responsabilité matérielle. J'avais rien pour faire un foyer. Mais alors il me dit, mais si tu fais un foyer pour tuberculeux, il faut une femme. Parce qu'évidemment, nous les protestants, on n'a pas les servantes comme les prêtres, hein. On n'a pas les sœurs de Jeanne d'Arc, de Sainte-Croix, ou de je ne sais quoi, mais ça, pour venir faire notre ménage. De sorte qu'on peut prendre une servante, mais vous savez tout ce qu'on raconte après sur les servantes. Et il vaut mieux se marier. Il vaut mieux vraiment. Mais pourquoi est-ce que j'étais contre le mariage dans un certain sens? Parce que j'avais peur qu'il soit un frein dans mon ministère. Je connaissais les pasteurs de Lévin, il y en avait deux, et leurs femmes leur interdisaient d'aller voir les malades parce qu'elles avaient peur des microbes. Alors, vous comprenez, parce qu'il y avait des enfants, évidemment, on était en contact avec des contagieux, et j'avais peur qu'une femme m'entrave, que je ne sois plus libre. Et alors, je pensais que j'étais beaucoup mieux que je sois seule. Mais, puisqu'il était question de créer un foyer, alors il fallait une femme. Et cet homme me dit, est-ce que tu en connais une? Bien sûr, j'en connaissais beaucoup. Mais ayant été malade pendant tant d'années, aucune de ces personnes qui avaient à peu près mon âge ne correspondait. Parce qu'il était question de vivre par la foi. Je n'avais pas de salaire, je vivais au jour le jour. Il n'y avait pas dans nos communautés où je suis né, il n'y avait pas une caisse centrale qui payait les serviteurs et du reste. Il n'y avait pas de serviteurs jeunes dans nos assemblées. On se mettait, comme on le disait, à l'heure, quand on avait une grande barbe blanche, qu'on avait fini ses affaires, qu'on avait très bien fait prospérer, alors, comme on était versé dans les Écritures, mais quand on était à la retraite, on visitait les églises et on enseignait. Mais quand un jeune se lève pour annoncer l'Évangile, ça ne s'était jamais vu dans notre milieu. De sorte que ce n'était pas facile pour moi. Et je n'avais pas du tout la prétention d'aller enseigner des gens aux cheveux blancs et qu'on savait plus que moi. C'est pourquoi ma vision, c'était le monde, c'était de prêcher dans le monde. J'allais dans les prisons, le Seigneur m'a ouvert des portes extraordinaires, et puis dans ces cantons catholiques essentiellement, pour y apporter la parole de Dieu, ou dans des villages où il n'y avait aucune église, aucune communauté. Je visitais maison par maison, et quand j'avais visité tout un village, je m'en hardissais, et j'avais trouvé le maire, en lui demandant, là, moi tout jeunais, s'il me louerait la salle de commune, la salle municipale, et je trouvais des choses extraordinaires, cet homme tout à coup qui disait, eh bien oui, pourquoi pas, et pour vous éviter d'aller redire que vous aurez la conférence dans les foyers, je mettrai un mot demain à l'école pour que les instituteurs et les institutrices annoncent cela à leurs parents. Vous voyez, je faisais l'expérience de Ruth dans les champs de Boz. Boz avait commandé que à ses serviteurs pour que Ruth soit encouragée qu'il y laisse quelques épis. Pas seulement qu'elle ait qu'un épi ici, qu'un épi là, mais de laisser quelques poignées. C'est quelque chose de merveilleux. Les encouragements du Seigneur. Et quand on a lu la vie de son enfant, quand on la connaît, eh bien, on a envie, vous savez, je sentais que le Seigneur était avec moi. Mais je ne vais pas vous raconter mon ministère parce que je sortirai de mon sujet. Mais vous m'avez demandé un peu pourquoi je prêchais et ce qui faisait que j'étais sauvé. Eh bien, je vous l'ai dit. Maintenant, vous m'avez demandé au sujet de mon... Est-ce que vous avez des enfants? Bien oui. Et vous allez trouver que j'ai un âge vénérable. Hein. Ma fille aînée aura 50 ans cette année. Bon. Alors vous voyez ce que je peux avoir comme âge. Hein. Bon. Ensuite, ma seconde fille, elle a eu 47 ans au mois de juin, le 28 juin. Et puis mon troisième fils, il a eu 41 ans au mois d'avril. Et il a été nommé doyen de la faculté des arts à Lausanne, en Suisse. Mon quatrième, c'est Daniel, que plusieurs connaissent. Il est directeur de la Société biblique à Montréal, de la Société universelle de la Société biblique pour le Canada. Et il fait un très bon travail de diffusion de la Bible. Plusieurs le connaissent. Et puis j'ai encore une fille, la dernière, Marie-Lise Gras, et là il y a toute une histoire, pourquoi on l'a appelée ainsi, et qui a 33 ans, est l'âge du Seigneur, n'est-ce pas, quand il a commencé son ministère. Elle a été infirmière, elle a été graduée à l'hôpital général ici à Montréal. Mais ensuite, elle a été 3 ans en Israël, où elle a appris l'arabe et l'hébreu, elle a travaillé là-bas. Puis, elle a fait beaucoup de musique, et quand elle est rentrée, elle a travaillé dans un institut psychiatrique en Suisse, et elle a désiré se perfectionner dans la musique. Elle est devenue professeure de musique. Et elle s'est mariée avec un jeune homme que certains connaissent, puisqu'il est venu une fois ici, qui s'appelle Prince, donc on les appelle les petits princes. Ils retournent assez souvent en Israël. Alors voilà, et cette Marie-Lise, ceux qui seront comme Mahanaïm, la verront, puisqu'elle vient, et elle nous fera aussi des soirées musicales, puisqu'elle est très forte de ce côté-là. Donc Marie-Lise et Georges seront là au camp Mahanaïm, Dieu voulant. Voilà, donc j'ai 5 enfants, et j'ai 13 petits-enfants, Et selon Marie-Lise, nous devons attendre encore une douzaine, parce qu'elle en voudrait au moins 12. Et comme elle est une femme très biblique, ben, elle prie pour que le Seigneur les donne. Il y a 4 ans qu'elle est mariée, elle n'a pas encore d'enfant, alors elle se désespérait un peu. Alors je lui ai montré que presque toutes les femmes de la Bible, elles ont crié au Seigneur. Elles n'ont pas pris la pilule, hein, mais elles ont demandé au Seigneur qu'il leur donne un enfant. Et le Seigneur les a exaucés, pas seulement Anne qui a eu Samuel, mais après elle en a eu 5 autres. Donc le Seigneur peut lui donner aussi des enfants. Donc vous voyez, j'ai 13 petits-enfants. Encore une fois, je dois avoir un âge général. Il y a une autre chose. Vous me dites, mais alors votre femme, là, c'était cette jeune femme là qui était là hier soir et est parti comme ça avec ce beau jeune homme. Oui, ça arrive constamment. La pratique des vertus chrétiennes. Où en sommes-nous? Je n'ai pas même regardé hier soir partir. Eh bien, chers amis, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon, mais que de la souffrance dans une vie. Il y a des dates dans ma vie. Oui, il y a la date de mon premier mariage avec une jeune veuve qui avait 2 enfants, 2 petites filles qui n'avaient pas connu leur père. C'était la veuve du médecin de mon village. Et elle s'était mariée à 20 ans, elle était un médecin qui avait 20 ans de plus qu'elle. Et à 23 ans, elle était veuve et elle avait ses 2 petites filles. Elle venait d'un milieu tout à fait athée, elle était française, mais d'origine juive. Et elle s'est convertie et c'est elle qui est devenue ma première femme, parce qu'elle était d'accord de ne pas entraver mon ministère. Et puis moi, c'était une raison de plus de devenir le père de deux petites filles qui n'étaient pas de mon sang, mais qui étaient les miennes réellement. Car pour moi, j'avais compris que et père, mère, ceux qui élèvent, et non pas simplement ceux qui engendrent ou qui enfantent. N'importe quel animal peut faire ça. Mais élever un enfant, c'est cela, la vraie paternité. Élever un enfant pour le Seigneur, c'est cela, la vraie maternité. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous dessécher si nous restons célibataires. De sorte que mes deux premières sont autant les miennes que les trois derniers qui sont de mon propre sang et mes deux filles aînées. Elles le savent bien. Alors on m'a aussi demandé, mais est-ce que vos enfants suivent le chemin que vous avez essayé de leur montrer? Est-ce qu'ils sont dans la foi? Et on lui parle la grâce de Dieu, parce que c'est une alliance que j'ai faite avec le Seigneur. J'ai dit, si tu veux, puisque tu m'as appelé, que je continue à te servir, si tu m'as donné des enfants, eh bien tu permettras que mes enfants t'aiment et marchent dans tes voies. Et c'est la grâce qui m'a été faite. Mes deux filles ont épousé deux serviteurs de Dieu, dont l'un est mon propre fils spirituel, à Nice, et c'est eux qui continuent l'œuvre que j'ai fondée il y a 30 ans, il y a eu 30 ans l'année dernière, qui s'appelle Le Refuge, la communauté évangélique du Refuge, et qui prospère par la grâce de Dieu. Mon aîné, avec que certains connaissent, a épousé Brian Patford, le fils du docteur Patford, qui lui-même est docteur mais en géographie, et qui s'est consacré aussi au service du Seigneur, et qui a fondé l'Eau Vive à Marseille, Aix-en-Provence. C'est entre Marseille et Aix-en-Provence, et là, ils ont toute une œuvre qui se développe et qui est réjouissante. Maintenant, quant à Jean Bernard, eh bien, on dit en Suisse qu'il a évité en 1968 à l'université de Lausanne. On l'a traité d'abord de maoïste parce qu'il parlait à ses étudiants, mais ensuite on a vu bien sûr qu'il était un authentique chrétien. Mais les mandarins, les professeurs de l'université de Lausanne n'étaient pas de ces gens qui avaient un contact avec leurs étudiants. Ils n'invitaient jamais les étudiants à leur table, mais élevés au refuge, élevés par son père et sa mère, qui avaient compris que l'exercice de l'hospitalité était un ministère d'évangélisation, eh bien tous mes enfants exercent l'hospitalité. Et c'est simplement ce que Jean Bernard a fait à Lausanne, et il a révolutionné l'université de Lausanne par la grâce de Dieu. Et il est aimé de ses élèves d'une façon extraordinaire. Vous le reverrez certains puisqu'il vient pour une demi-année sabbatique à Toronto avec ses trois enfants au mois d'août. Voilà, excusez-moi d'avoir un peu parlé de moi, de mes enfants, de ma famille, mais vous l'avez demandé, vous vouliez peut-être un peu me situer. C'est un peu toujours cela qui arrive dans les temps. Il y a quelques années, c'était à Jolibet. À la fin d'un temps, une dame de la chute, devant ma petite fille qui avait 12 ans, une de mes petites filles, me dit, alors monsieur Racine, est-ce qu'on ose vous demander votre âge? Oh, je lui dis bien, madame, essayez, devinez. Alors elle dit, 70. Vous trompez un tout petit peu. Alors, excusez-moi, 80. J'ai cru que ma petite Sonia allait la griffer. Mon papitou, il est pas si dur que ça. Mais c'est très drôle, on est toujours intrigués. Oui, peu importe. Mais voilà, la mère de mes enfants, en 1959, Vanda, alors que j'étais en pleine prédication dans la convention chrétienne de Morges, en Suisse, la 50e convention, il y avait 1500 personnes de différents pays qui étaient groupées là, et j'avais des conférences à faire le samedi, le dimanche, le lundi et le mardi, et le dimanche matin, à 6h, un râle, et elle était partie vers le Seigneur. J'avais prêché le soir, je devais prêcher le matin, et à 6h, ma femme n'était plus, et je restais avec 5 enfants. Et il fallait dire à ma petite, qui avait 11 ans, tu n'as plus de maman, c'était quelque chose de terrible. Et puis, je pensais que j'allais, et puis ma femme ne mourait pas dans la ville que nous habitions en France, nous habitions à Nice, et maintenant j'étais là, dans une ville qui n'est pas étrangère, si vous voulez, puisque j'étais juif, mais ma femme n'était pas juive. Et bien, j'ai compris que le Seigneur voulait que je vive mon christianisme, la pratique des vertus chrétiennes, oui. Ce que tu prêches aux autres, est-ce que tu le vis? Tu dis que tu as la foi et tu annonces la foi aux autres. C'est bien le moment de montrer ta foi et non pas de te décourager parce que ta femme meurt. Si ta femme est morte, est-ce qu'elle est malheureuse? Qu'est-ce que tu as prêché aux autres? Elle ne voudrait pas revenir vers moi. Alors, est-ce que toi tu vas rester devant sa dépouille mortelle à pleurer et à rester là? Ta place est avec tes frères. Et à la louange du Seigneur, c'est ce que Vanda voudrait. Et vous savez, le Seigneur nous prend avec force et nous conduit là où nous devons être. Et c'est pourquoi ce matin-là, j'ai loué le Seigneur avec mes frères, tout en pensant au cadavre de mon épouse, bien sûr, parce qu'il y avait aussi toutes sortes de décisions à prendre. Est-ce qu'on allait faire le transport du corps à Nice? Les tombes funèbres étaient là. On devait mettre le corps de ma femme à la mort en attendant ma décision. Et le Seigneur me dit, là où l'arbre est tombé, là aussi il demeure. Puisque Vanda est tombée à Morges, tu l'enseveliras à Morges. Pas de transport de corps. Toute la terre est à l'Éternel. Et tu es un soldat. Et quand on est en guerre, dans le combat, quand ton meilleur camarade tombe à tes côtés, qu'est-ce qui se passe? La guerre s'arrête? Tu continues. Tu ne restes pas là à pleurer. Il faut continuer le combat. Et j'ai dû continuer le combat. J'ai donc prêché le matin, j'ai dû donc prêcher l'après-midi, le soir et le lendemain, la municipalité de Morges me fait dire, puisque vous êtes resté à votre poste pour toutes les conférences, parce qu'il y avait aussi quelque chose de touristique là-dedans pour les autorités, nous donnons la citoyenneté d'honneur à Madame Racine et nous l'enterrons à nos frais et nous vous donnons la concession au cimetière de Morges qui est au bord de ce beau lac Clément. Vous savez, vous voyez des choses quand on dépend du Seigneur. Il éprouve, mais il a aussi compassion. Et ce que j'ai compris que le Seigneur voulait, c'est que je ne sois pas un théoricien, mais quelqu'un qui a connu l'épreuve dans bien les domaines et qui continue de la connaître. J'ai passé sur une autre épreuve qui avait eu lieu en 1947, quand mes propres frères, mes bien-aimés, ne m'ont pas compris à cause de la largeur de mon cœur qui me poussait à répondre aux demandes qui venaient d'autres milieux que ceux de mes communautés et que je sentais ma responsabilité d'aller porter mon témoignage là alors qu'on voulait que je reste uniquement l'homme de ces milieux-là. Et le Seigneur me disait, tu n'es pas l'homme d'un milieu, tu dois être l'homme de Dieu. Et tu dois aller comme un prophète partout où je t'envoie. C'est la vocation que je t'ai donnée. Ne l'écris pas à tes frères de veut que je serve entièrement, il continuera d'y pourvoir, je ne sais pas comment. S'il veut je lui donne seulement une partie de mon temps, je sais que je peux travailler de mes mains, que j'ai une tête et que je peux gagner ma vie, moi aussi, et je lui donnerai le reste de mon temps. Et même dans mon travail, j'essaierai d'être un témoin du Seigneur, parce que nous sommes tous des ouvriers à plein temps, croyez-le bien. Quelle que soit votre occupation, mettez-vous bien cela dans la tête et dans le cœur, homme ou femme, si vous voulez pratiquer les vertus chrétiennes, c'est dans votre situation, c'est dans votre métier, c'est là où vous êtes que vous devez le faire. Mais pour éviter une division, en 1948, c'est cela qui m'a fait partir en France, où justement, après 3 ans, on a pu commencer cette œuvre qui s'appelle Le Refuge en 59. Ma femme s'en va vers le Seigneur. Et là encore, je n'ai jamais pensé que je fonderais un nouveau foyer. Seulement, j'avais dit au Seigneur, si un jour, à cause de mes enfants, il faudrait qu'il y ait un changement pour moi, eh bien, je te demande d'intervenir. Mais moi, je ne bougerai pas le petit doigt. Tu m'avais donné Vanda, tu l'as reprise, que ton nom soit béni. Et je n'ai jamais pensé recréer un nouveau foyer. Mais une nuit, le Seigneur m'a parlé en me disant, tu n'as pas à t'occuper de ton avenir. C'est moi qui m'en occupe. Alors j'ai dit, Seigneur, si un jour ça devait changer, il faudrait vraiment que ce soit comme Adam, comme pour Adam. Mais je ne savais pas que Dieu avait tellement d'humour. Et que
qu'en 1960, quand j'arrive au Québec, ben là, M. Lirol, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois, c'était en 60, je crois. C'était au mois de mars, je sors de l'avion, c'est-à-dire on m'a sorti de l'avion parce que j'étais paralysé. J'avais une sciatique, mais je pensais que ça irait, et puis les 14 heures d'avion avaient finalement complètement bloqué mon dos, de sorte qu'au bout d'un jour et demi, on a dû me mettre à l'hôpital, et on a décidé finalement l'opération de la colonne vertébrale. Et c'est là, pour la première fois, que j'ai rencontré cette doctoresse qui s'appelait Eve, après qu'on m'ait désossé. On m'a enlevé un morceau de l'os. C'est vrai, de vrai, c'était l'air. Mais je ne pensais pas du tout à ce qui arriverait, parce que c'est deux ans plus tard, à Rome, que je l'ai rencontré à nouveau, et que là, dans la ville de Rome, nous avons compris que le Seigneur nous mettait ensemble. Je venais de rentrer du Vietnam, où j'avais fait un mois de mission. Ma femme était née en Chine, et c'était Eva, était née en Chine. Elle avait vécu 19 ans dans ces pays-là. Alors, mes amis, vous voyez, les œuvres du Seigneur. Alors, vous me direz, mais enfin, vous n'avez pas traité du tout votre sujet. Mais on va le faire, hein, pas ce soir. Mais je voulais que vous soyez peut-être plus à l'aise avec moi. Vous voyez bien que je suis un homme comme un autre, qui transpire. C'était bien la différence. Mais il y a tellement de chanteurs, il y a tellement d'hommes hein, dans le monde qui transpirent. Les danseurs mondains, ils changent trois fois de chemise, trois fois d'habits. Gilbert Bécaud, il use trois habits en un mois, mais ça c'est fini parce que c'est brûlé par la sueur. Alors moi, je veux bien transpirer un peu pour mon maître, puisque c'est là ma faiblesse. Et je n'ai pas honte de cette sueur, le laboureur aussi. Il transpire, et le Seigneur, lui, il a sué du sang. Mais je voudrais vous dire, ayez confiance dans le Seigneur. Il y a des épreuves dans la vie, mais il y a des délivrances, et des merveilleuses délivrances. Et par la grâce de Dieu, je puis dire qu'Eva est, pour moi, l'exaucement des prières de Wanda. Et c'est très drôle. Au bout de deux ans de veuvage, mes deux fils étaient venus vers moi, et m'ont dit ceci, tu sais, papa, on avait toujours pensé que nous ne pourrions pas supporter de voir une autre femme à tes côtés que maman. Mais maintenant, nous avons compris, nous sommes jeunes, nous allons grandir encore, nous allons faire notre vie. Et toi, tu es trop jeune pour rester seule et il faut sauver Marie-Élise. Tu dois te remarier. Je dis, mais me remarier, et avec qui? Mais il n'y en a qu'une qu'on pourrait accepter. Alors, c'était assez amusant parce que il mettait de côté toutes celles qui... c'était mis sur mon chemin et que mes amis, hein, gardez-moi de mes amis quand on est là, gardez-moi de tout ce qu'on a voulu faire. Hein. Alors mes fils, et la seule qu'ils voulaient, ils ne la connaissaient pas, ils ne l'avaient jamais vue. Ils ont dit que la doctoresse Eva. On s'écrivait simplement, puis je leur lisais un peu ce qu'elle me disait, et il y avait une communication entre nous. Et par la grâce de Dieu, mes enfants chérissent leur seconde maman, qui m'a aussi redonné au Seigneur, complètement. Et à Morges, quand j'ai vécu le drame de ma vie, il y avait là le père des professeurs Nicole, vous en connaissez peut-être en tout cas un, celui de c'est à Boston qu'il est, non ? Boston, oui, Roger. Mais je suis très ami avec le directeur de l'Institut biblique de Nogent, qui s'appelle Jules Marcel, et... Son père était mon ami intime. Il était aveugle, il est mort à 94 ans. Lui avait vécu mon drame, la mort de Wanda. Et quand il a vu Eva, quelques années plus tard, il est allé vers elle, puis il lui a dit, c'était un vieux pasteur, aveugle depuis l'âge de 35, comme un homme de Dieu, ce père Nicole. Et il lui a dit, vous savez, ma chère amie, le souci que j'ai eu quand j'ai su que Gaston allait épouser une doctoresse, je vais vous le dire. Je me suis dit, elle va le mettre dans le coton. Elle va l'empêcher de faire ceci, de faire cela à cause de sa santé. Et il ne pourra plus faire tout ce qu'il faisait. Eh bien, je vous en supplie, au nom du Seigneur, laissez-le faire. Puis vous savez ce qu'elle a répondu, ma chère femme? Le Seigneur me l'avait déjà dit. parce que c'est cela quand on est spirituel. Et j'ai des fois été très mal qu'elle m'a laissé partir. J'ai eu 3 arrêts cardiaques. Elle me laisse partir bien loin en se disant, est-ce qu'il reviendra? Mais elle m'a redonné au Seigneur. Alors nous ne vivons pas dans la crainte. Nous ne vivons pas dans la peur. Nous vivons dans la louange et la reconnaissance. Puis un jour, moi j'attends pas la mort, j'attends le Seigneur Jésus, j'attends son retour. J'ai une bienheureuse espérance. Mais s'il fallait partir, est-ce que c'est une catastrophe? Écoutez un peu Saint Paul, vivez, mettez en pratique ces vertus chrétiennes, votre foi, votre espérance, votre amour, ce que nous vous disions hier de ces vertus qu'on appelle les vertus théologales, parce qu'elles ont Dieu pour objet direct. Et puis, dans les jours à venir, après être revenu sur ces vertus théologales, sur ces vertus chrétiennes, la foi qui n'est pas la croyance en Dieu, mais qui est la foi en la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez ce que Dieu dit? C'est cela que vous devez mettre en pratique. Pratiquez votre foi, vivre de foi en foi, vous accrocher aux promesses de l'Écriture et dire à Dieu dans la détresse, « Seigneur, j'accepte cette dispensation, mais aide-moi, tu l'as dit. » Et vous savez, quand vous prenez Dieu au sérieux, lui aussi vous prend au sérieux. Il m'avait montré très clairement que si je devais un jour avoir un nouveau foyer, ça ne pouvait être qu'avec une femme que je ne connaissais pas et qui n'avait pas connu Vanda. Ça, c'était clair. Et ça a balayé tout ce que mes amis et de chers amis ont voulu faire pour me redonner un foyer. Ça ne pouvait être qu'avec une personne que je ne connaissais pas et qui n'avait pas connu ma première femme. Donc tout cela a été net, tout cela a été clair. Et le Seigneur l'a fait, et je donne gloire et louange à son nom. Mais je vous dis simplement cela pour que vous sentiez que derrière ma prédication, quand je vous exhorte à avoir une foi vivante, je sais ce que c'est que la foi. Vivre d'une vie de foi. Figurez-vous que cet homme qui m'avait dit « Ton foyer pour tuberculeux, j'en prends la charge », c'était vrai. Mais vous savez ce qui est arrivé? 4 mois après que j'étais installé à Lézun, il mourait. Un matin, sans avoir fait de testament, comme il n'avait pas d'enfant, son héritage allait aux héritiers de sang. Et sa pauvre femme, elle était lésée en tout. Alors bien sûr, moi je lui ai dit, vous n'avez aucune responsabilité à mon égard. Mais qu'est-ce que ça m'a valu cette mort? Ça m'a enlevé l'appui matériel, parce que Dieu ne voulait pas que je puisse m'appuyer sur quelque chose de sûr. Ça me faisait vivre de nouveau au jour le jour, me demandant comment le Seigneur y pourvoirait, et il a pourvu d'une façon merveilleuse qui m'a permis d'aider à faire vivre des malades pendant la guerre. Mais en même temps, par sa mort, comme il n'y avait que 4 mois que j'étais à Lézun, c'est moi qui ai dû faire l'enterrement de cet homme très connu, et il y avait 1000 personnes à son enterrement. Toute la ville, les notables de la ville étaient là, et c'est cela qui m'a fait connaître à Lézun, et qui m'a ouvert toutes les portes de cette ville, par cette mort, par cette prédication, dans un enterrement où tous les malades, il y en avait 3000, étaient sur leur lit, dans les sanas, et ma voix portait de sorte qu'ils l'entendaient jusqu'en haut, et ça m'a ouvert les portes par cette mort. Donc, rien n'est contre nous. Encore une fois, je vous le dis, toute chose travaille. C'est pas un simple concours, hein, ça fait mal. Au bien de ceux qui aiment Dieu. De sorte que, mes amis, même si nous ne comprenons pas, bon Seigneur, n'attendons pas qu'il nous révèle le pourquoi de toutes choses là-haut, mais louons le Seigneur. Et je vous ai dit, en vous rappelant les 3 vertus théologales, la foi, qui est la croyance en la parole de Dieu, en ce que Dieu a dit, et qui se renouvelle tous les jours, l'espérance, qui est l'espérance non pas seulement de la résurrection, mais l'espérance essentiellement de son retour, de sa venue, il vient notre Seigneur, Maranatha. Nous l'attendons. Et vous y croyez, vous, au retour du Seigneur? Et vous croyez qu'il est proche? Mais c'est une chose de croire au retour du Seigneur. Vous savez, vous n'êtes pas plus avancé que les musulmans. Parce que les musulmans aussi croient au retour de Finiyasa, de Jésus. Ils y croient à ce retour, plus que certains chrétiens, dit chrétiens. Mais comment est-ce que je peux savoir que vous attendez le Seigneur? Parce que c'est une chose de connaître les vérités de son retour. Mais l'attendre, pratiquement, c'est tout autre chose. C'est se réjouir de ce qu'il pourrait revenir ce soir. Est-ce que je suis heureux? Ou bien est-ce que vous dites, oh Seigneur, attends encore une semaine parce que j'ai des choses à régler. Réglez les choses maintenant. Vivez en règle, si je veux dire ainsi. Mettez en pratique les vertus chrétiennes. C'est ça. Alors, vous l'attendrez amoureusement. Moi, je suis souvent loin de ma femme sur un autre continent. Et quand les postes marchent, mais c'est si rare, eh bien, elle m'écrit à un moment donné, je compte maintenant les jours, en pensant à mon retour. Et puis après, elle dit, je compte maintenant les heures. Quelquefois, elle va jusqu'aux minutes. Hein. Mais maintenant que le courrier est tellement perturbé, ça n'arrive pour ainsi dire plus. Mais c'était cela son attente. Et je sais que même si elle ne m'écrit plus des lettres de ce genre, c'est encore cela son attente quand on aime. Et puis, après m'être donné à tant d'autres, je suis quand même heureux de revenir quelquefois un peu en miettes. Mais comme elle est médecin, elle recolle les miettes, hein. Elle replace tout ça. Et puis, et ça me permet d'aller plus loin. Vous voyez comme le Seigneur est bon, comme le Seigneur fait bien les choses. Il réunit ceux qu'il aime. Et il fait qu'ils correspondent, qu'ils se correspondent. Alors, mes bien-aimés, vous avez compris, hein, les trois vertus, la foi, une foi active, vivante, qui produit des œuvres, l'espérance, une espérance vivante, qui nous réjouit, qui nous console, et puis l'amour, la pratique de l'amour. Que nous soyons loin, que nous soyons proches, nous nous restons fidèles, pour quelle raison? Parce que nous aimons le Seigneur. On me dit, mais vous avez confiance en votre femme? Elle est là toujours avec ses autres médecins. On peut être loin. Et puis, on peut tout aussi lui dire, vous avez confiance en votre mari? Il est toujours par Mons et par Vaux, là. Et puis, il a souvent des entretiens avec des femmes aussi. Alors, cette amie, qu'est-ce qui est notre confiance? C'est qu'elle sait que j'aime le Seigneur. Et quelle est ma conscience? Ma confiance, c'est que je sais qu'elle aime le Seigneur. Et c'est à cause de notre amour pour le Seigneur qu'on se reste fidèle dans la vie, c'est pas autre chose. Croyez-le bien. Et si vous n'avez pas cela dans votre cœur, eh bien, c'est la faillite. Parce que ces grands amours dont on a parlé, ça finit souvent par le divorce. Aimez-vous dans le Seigneur, pratiquez l'amour, vivez dans l'amour. Et après ces vertus théologales, nous considérerons ce qu'on a appelé les vertus cardinales qui résument toutes les autres vertus morales que je vous mentionnerai. Ces quatre vertus cardinales sont la force ou le courage, la patience, la justice et enfin... Je m'excuse, je suis un peu fatigué ce soir. La force, la justice, la prudence, pardon, et la tempérance. Parce qu'on les estime, ces quatre, comme étant le pivot sur lequel tournent toutes les autres vertus morales. La force, la justice, la prudence et la tempérance. Vertus qu'on appelle cardinales, parce qu'on les trouve comme étant les vertus principales. Eh bien, que le Seigneur maintenant nous donne une confiance les uns dans les autres et que nous puissions déposer cette question et j'aimerais que vous puissiez y répondre. Êtes-vous dans la foi ce soir? Notre frère l'a dit, pour mettre en pratique les vertus chrétiennes, il faut être. Et je voudrais que ce soit bien compris cela. Ce n'est pas de la morale que je vais vous faire. Il faut être né de nouveau, et les vertus chrétiennes sont les vertus qu'on a vues en qui? En Jésus. Non, c'est clair. C'est les vertus qu'on a vues en Jésus. Et si Jésus est en nous, ses vertus vont se manifester, et ce sera la vie de Jésus en nous qui produira cette manifestation. Êtes-vous dans la foi? Vivez-vous dans l'espérance? Et voulez-vous continuer d'aimer encore, d'aimer toujours, d'aimer même ceux qui vous haïssent? Prions. Mon Dieu, notre Père, tu as voulu que cette heure se passe d'une façon peut-être tout à fait différente que nous ne l'avions prévue. Mais nous ne voulons pas être de ceux qui résistent à ton esprit. Et nous voulons continuer de donner un enseignement qui soit pour plusieurs une édification, qui soit en même temps une exhortation et aussi une consolation. Nous ne voulons pas démolir, nous voulons bâtir. Nous voulons édifier les âmes, nous voulons bâtir les âmes et non les démolir. Nous voulons les exciter et non les juger, les exhorter dans l'amour. Et nous voulons aussi chercher à apaiser leurs tourments, les consoler, non pas d'une consolation fâcheuse, comme ce fut le cas des amis de Job, mais par la consolation dont nous avons nous-mêmes été consolés de Dieu quand nous étions dans l'affliction. Et maintenant, nous te remettons la suite de cette réunion en te demandant que tu continues à nous parler dans nos cœurs lorsque nous serons dans nos tentes, dans nos baraques, que l'entretien, le tête-à-tête suprême avec toi se continue et que tu nous prépares pour recevoir demain matin, demain dans la journée et demain soir les enseignements que tu auras préparés pour nous, qui édifieront nos âmes et qui nous fortifieront dans notre foi de disciples et dans notre authenticité de membre du corps du Christ, reflétant vraiment les caractères d'une Église véritable que tu reconnais pour la tienne et la tienne seule.